l'Amérique.
Keep America great.
Avec Valérie Beaudoin.
Merry Christmas, Valérie.
Merry Christmas, Patrick.
Ça me fait très plaisir. Ah, ça s'est bien passé?
Oui,
oui. 48 heures de vacances, j'ai envie de dire, que de Noël,
mais,
à tout le moins.
Écoute, c'est un plus un 24 heures de vacances, mais je suis contente de retrouver les auditeurs. Moi, écoute, la politique américaine ne prend pas de pause pendant les fêtes, puis c'est un drôle de temps des fêtes, alors ça me fait plaisir de suivre ça tous les jours, mais j'ai essayé quand même de me reposer un petit peu là, hier, et je vais le faire encore aujourd'hui.
Il n'y a pas juste toi qui en a profité pour se reposer. En fait, je ne sais pas s'il s'est reposé, mais chose certaine, en tout cas, il est en vacances, lui également, en Floride. Je parle bien sûr de Donald Trump. C'est là qu'il passe ses vacances de Noël et il en a profité pour contester à nouveau les résultats de l'élection.
Oui, bon, je ne sais pas, le golf, je crois que ça fait partie de son repos. Oui, quand même, parce qu'il est pas mal sur les terrains de golf actuellement en Floride. Oui, ses vacances, ça se passe toujours à Mar-a-Lago, sa résidence à Palm Beach. Mais là, c'est dans un contexte vraiment assez spécial. Hein. On s'entend qu'on est en plein milieu d'une crise sanitaire, une crise financière aux États-Unis, et il y a beaucoup de gens qui reprochent au président d'avoir cette image de personne justement qui joue au golf. Les médias sont pas trop au courant de son horaire, de ce qu'il fait, et aussi finalement qu'il est très très actif sur Twitter. Et ça, je pourrais t'en parler dans un instant parce que ce matin là, il a tweeté en Syrie. On va pouvoir se parler encore de fraude électorale. Mais avant toute chose, parce qu'on vient de se souhaiter joyeux Noël, oui, je veux quand même te faire entendre, c'est le classique que je présente toujours le 26 décembre, les souhaits de Noël de Mélania et de Donald. Alors, on les écoute.
This Christmas is different than years past. We are battling a global pandemic that has affected all of us. Yet, through this great challenge, we have been inspired by the kindness and courage of citizens across this country.
In this holy season, we thank God for His infinite love, and we pray that the light of His glory will forever shine on this magnificent land. On behalf of Melania and the entire Trump family, we wish you a very Merry Christmas and a Happy New Year.
Ouais. Monsieur, merci. Merci, écoute, Donald.
Hein? Tu peux me remercier de t'avoir fait entendre ça ce matin. Mais... non, mais écoute, si je résume un peu pour les auditeurs. Donc, Mélania qui a remercié les Américains de leur courage en temps de pandémie. Donc, c'est un message qui était quand même très porteur d'espoir, où le président, justement, remerciait aussi les scientifiques dans une partie du message qui disait que le vaccin, c'était un miracle de Noël. Donc, c'était vraiment le ton qu'on devait avoir dans un temps aussi critique aux États-Unis. Et ce que je trouve dommage, parce que je salue quand même ce message qui a été fait, c'est d'avoir de l'autre côté de la médaille où, après ce message-là, eh bien, on ne semble pas se soucier de ce qui se passe avec... Écoutez, on est rendu à plus de 330 000 Américains qui sont décédés de la COVID-19. C'est pas rien. Ils attendent d'avoir de l'aide financière. Ça se règle pas. Et pendant ce temps-là, le président tweet énormément sur ce qui se passe dans la campagne électorale. Et là, sa nouvelle cible, c'est les sénateurs républicains, disant qu'ils l'ont laissé tomber. Il a même dit, les démocrates, si les situations étaient inversées, que c'est un candidat démocrate qui avait vécu cette fraude électorale alléguée, ça serait un acte de guerre, ça serait considéré comme un acte de guerre pour les démocrates. Alors vraiment, là, c'est ce qui transparaît, Patrick, de son Twitter et de ce qu'il dit. Il ne lâchera pas le morceau jusqu'au 20 janvier, j'ai bien l'impression.
Et d'ailleurs, il n'a pas subi une autre défaite judiciaire, lui, la veille de Noël?
Ben oui. Écoute, un bon petit cadeau du 24 décembre pour le président qui n'a pas dû être très, très content parce que les auditeurs doivent savoir que les contestations judiciaires se poursuivent. Et là, la dernière, c'est au Wisconsin. La Cour d'appel qui a confirmé une décision rejetant une poursuite pour donner la victoire de Donald Trump au Wisconsin. Et il a gagné Joe Biden. Il y a eu des recomptages aussi, les résultats certifiés. Et je rappelle aussi que les grands électeurs ont déjà voté pour la candidature de Joe Biden à la présidence.
Bon, là, lâchons justement ces contestations-là puis tout ça, lâchons Donald Trump. On va se rendre dans le centre-ville de Nashville. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'il y a des nouveaux développements au moment où on se parle suite à l'explosion qu'il y a eu là hier?
Écoute, pour l'instant, c'est le mystère. Je ne sais pas si vous en avez parlé jusqu'à maintenant à l'émission, sinon je peux quand même situer les gens là. Il y a un véhicule récréatif, donc une espèce de roulotte qui était dans le centre-ville de Nashville et qui a explosé dans la nuit du 24 au 25 décembre, donc dans la nuit de Noël. Et ce qui est particulier, c'est que maintenant, on sait hors de tout doute que c'était non seulement planifié, mais qu'il avait un message enregistré qu'on entendait pour dire aux gens « Je vais exploser dans 15 minutes ». Écoute, moi, là, ça semble sortie d'un film. Pour moi, c'est cette histoire-là extrêmement mystérieuse. Alors, les policiers qui ont eu le temps d'évacuer les gens pour éviter le plus de blessés possible, il y a quand même eu des blessés et un énorme cratère au centre-ville de Nashville pour les gens qui veulent voir les images. Et c'est silence radio de la part du président sur cette explosion-là. Joe Biden qui a quand même réagi en disant remercier tous les premiers intervenants et en souhaitant aux blessés, bien sûr, de se rétablir rapidement. Mais vraiment, ça va être le FBI qui est en enquête. On veut savoir si c'est un geste isolé ou il y aura d'autres gestes comme ça parce que c'est pas rien. On a stationné un véhicule, on sait pas qui l'a fait et on a eu un décompte qu'on entendait dans la rue. Peux-tu imaginer, moi, là, je voudrais vraiment pas être à la place des gens qui ont eu à entendre ça et qui ont eu le stress aussi de quitter avant vraiment une explosion très, très importante.
Mais heureusement, au moment où on se parle, du moins, il n'y a pas eu de fatalité, il n'y a pas de mort, sauf erreur. Là.
Non, pour l'instant, mais on fouille encore dans les décombres. On souhaite que ça reste au niveau des blessés, bien sûr, mais on verra peut-être demain à la chronique, j'aurai plus de détails sur qui sont les auteurs présumés de cette attaque-là.
Valérie, tu as eu la super bonne idée, je trouve, de nous offrir des suggestions de séries documentaires. Parce que c'est vrai que parfois, c'est un peu compliqué à saisir toutes les subtilités donc de la politique américaine. Et toi, tu avais envie de nous suggérer donc des séries documentaires pour nous aider à comprendre, à assimiler tout ça. Après tout, c'est quand même nos voisins là, immédiats.
Oui, et en 2020, on s'est tellement intéressé à la politique américaine au Québec, ça n'a aucun sens. Alors, j'ai des suggestions à faire. Je vais en faire à tous les jours pendant mes chroniques du temps des fêtes. La première, ça s'appelle The Ford Estate. Et juste pour vous mettre dans l'ambiance, je vous laisse entendre la bande-annonce. They are the enemy of the people. We just got kicked out of the White House briefing. You really gotta want the story. I think you either have that or you don't. Would it be fair to characterize that story as wrong? Yes. We went back to our sources. We're confident in the story. You pick on one of us, it means you have to deal with all of us. Unique moment in American history. President of the United States who is under...
Qu'est-ce qu'on entendait exactement, Valérie?
Alors, c'est sorti au printemps 2018, une série de Showtime, et c'est les coulisses du New York Times pendant les 100 premiers jours de la présidence de Trump. C'est vraiment très, très bon pour les gens qui s'intéressent au travail des médias, des journalistes, parce qu'on voit comment on sort les scoops, on voit les conversations, par exemple, le président qui décide d'appeler une journaliste, la journaliste qui a la conversation avec lui et qui retranscrit par la suite l'entrevue. On apprend à connaître Maggie Haberman, qui est une journaliste très, très importante au New York Times, qui a été repêchée par le média, justement parce qu'elle connaissait bien Donald Trump, l'avait suivi pour un autre média pendant des années. On voit aussi la réalité de famille. Écoutez, nous, on est dans les médias, on le sait que c'est très, très exigeant comme travail, mais quand c'est scandale après scandale et on doit fouiller des dossiers, on voit que la vie de famille, c'est très difficile pour certains journalistes qui doivent jongler avec des heures impossibles au travail, avec un président qui les traite de fake news. Donc, cette guerre qui a débuté quand même dès le début de la présidence Trump. Donc, pour les gens qui s'intéressent, c'est disponible sur Crave. Alors, je vole le travail à Caroline de temps d'un instant, j'ai l'impression.
Je prends des notes, Valérie, je prends des notes.
Non, mais c'est vraiment très bien fait. C'est certain que les gens qui n'aiment pas le New York Times ou ce style de journalisme-là vont pas trouver ça intéressant dans le sens où c'est vraiment teinté. Là. C'est le travail du New York Times, le travail de coulisses. Mais moi, pour quelqu'un qui est journaliste aussi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant à voir cette série-là. Donc, même si c'était les 100 premiers jours, c'est en 4 épisodes, je trouve que c'est quand même encore d'actualité. Et est-ce que j'ai le temps pour une deuxième suggestion?
Rappelle-nous juste le titre du premier,
oui,
juste pour être
certain. The Ford Estate. Alors, The Ford Estate, c'est disponible si vous faites une petite recherche là, sur Crave pour les gens qui l'ont. Et ça vaut quand même la peine. C'est 4 épisodes. C'est environ 1 heure par épisode. Donc, c'est vraiment comme une mini-série documentaire. Donc ça, je pense que c'est quand même une série à voir là, si vous intéressez aux médias. La deuxième suggestion, c'est les séries documentaires. Ça, c'est plus accessible à un peu tout le monde. Sur CNN, sur les décennies, les séries qui s'appellent The Decades. Alors, on a vu les années 60, les années 70, les années 80, 90 et les années 2000. C'est des séries qui ont été produites par Tom Hanks. Et pourquoi je vous en parle, c'est que sur le site de CNN, si vous faites une recherche dans le moteur de recherche CNN et, par exemple, The 60s, vous allez tomber sur une page où il y a plein d'extraits, des quiz, et on voit autant de révolutions culturelles, technologiques, du temps de guerre, de la guerre froide, dans ce cas-là surtout, et au président aussi, ce qui s'est passé. Donc, on va dans un vaste éventail d'informations. Et c'est d'ailleurs aussi cette semaine, on va les repasser, les séries. Donc, les séries, ça commence à partir de The 70s cette semaine. C'est dimanche prochain à CNN. Mais vraiment, pour les gens qui sont peut-être pas abonnés à la chaîne, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui se trouvent sur leur site. C'est super intéressant parce qu'on va parle pas juste, vous allez le voir, de politique. On parle vraiment des révolutions culturelles aux États-Unis. Alors ça aussi, c'est vraiment une bonne suggestion, je crois.
Et Dieu sait que l'histoire culturelle, sportive, peu importe, évidemment, voilà. Sociale, politique aux États-Unis, c'est riche, pas à peu près. Merci Valérie pour ces suggestions-là. T'en auras donc aussi deux autres demain, fort probablement. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin.
Merci, à demain.
Merci, bye-bye, à demain. Autour de la pause, on prend des nouvelles du monde du sport parce que ça non plus, ça n'arrête pas. Et de la culture également avec Caroline.